Oh là là! Un paladin radiophonique des lettres.
Vous êtes apprêté, capillairement parlant. Salut Baxter!
Oui, c'est ma coupe aérodynamique.
Ah mais voilà. Là on est sur du fluide. Hein.
Pour pénétrer avec plus de facilité dans la littérature contemporaine.
Puisqu'on en parle, je vais aller saluer Agnès.
Je suis la littérature contemporaine.
J'ai pas dit ça.
It's me!
Bon goût.
Permettez que je tourne une page. Vous allez bien?
Eh bien oui, vous-même.
J'ai rendez-vous en retard avec Aurore Pourny, donc je vais bien.
Ah oui.
Ah, vous savez, bon, accueillir les gens, ou avec du Janis Joplin et...
Mais oui, avec notre Janis au comptoir.
C'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelque chose.
Il y a quelque chose, hein?
Ouais.
Français, avec un nom pareil, il coque dans les Landes, hein?
Je ne dirai rien.
Alors ça y est, la loi immigration, il n'y a pas encore passé.
Ah ben,
alors là,
taillot,
ça y est.
Taillot.
Le Baxter, c'est doux, ça. C'est allemand, ça. Baxter.
C'est basco-charentais, monsieur.
Ça veut rien dire.
Mais si, les Basques et la Charente.
64 et 17, ça veut rien dire. Ça fait quoi? Au mieux, ça fait 81.
81. Ouais. Oui, c'est beau, c'est pas son année de naissance.
Basco-charentais.
Ouais.
Vous vous habillez comment, là-bas?
Dans une mode de beurre, monsieur.
Voilà. Très bien. Aurore Pourny, on va y aller?
Ce sera moins drôle.
MDM. Tout un monde.
J'ai lu un livre une fois, ça m'a rien fait.
Cette même personne m'a dit que j'étais un illettré, qui veut dire homme de lettres, en italien.
Alors, la gueuse de Camus, la vilaine de Camus, la peste de Camus, la mégère de Camus.
Réponse D, la mégère.
Et donc on disait quoi? Cuticule.
Ça veut dire quoi? C'est un livre sur le rapport entre les femmes et les animaux.
Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part.
Vous avez vraiment une écriture. Pourquoi vivez-vous comme un clochard?
Mais je suis un clochard. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que je chante les souffrances de la grande bourgeoisie? Connerie.
Ça vous surprendra sans doute, mais elle souffre aussi.
Oh. Doucement, petite. Personne ne souffre autant que les pauvres.
Qu'est-ce qu'elle fait? N'allez pas...
Casser les livres.
Non, n'allez pas casser... Elle est pas jolie, mais elle est jolie, cette expression. N'allez pas casser les livres. Et surtout que, ça faisait quand même... Je vous ai dit bonjour.
Non, du tout.
Salut. Ça fait un bail qu'on n'avait pas fait. Un road movie.
USA.
Ouais, j'ai cru comprendre.
Dakota.
Alors, c'est quoi? C'est une suite?
Oui, c'est une suite.
Mais alors, c'est la suite d'un bouquin dont on laissait présager la suite ou...
On savait qu'il en avait écrit plusieurs. D'accord. Ça se passe 15 ans plus tard. La suite a été écrite 15 ans plus tard. Donc oh. Non.
Mais alors, si on parlait donc du coup de Kentner Burn.
C'est grandiose, vraiment, ce titre-là. Les éditions du Sonneur ont eu une excellente idée de traduire Kentner Burn des deux titres, un qui est paru en 1994 et l'autre qui est paru en 2009 aux États-Unis. On était passé à côté, comment est-ce possible? Et alors, ça n'est pas un énième livre sur la communauté amérindienne, ni sur les Indiens, ni sur...
Danse avec les loups 2.
Non, du tout. Et pourtant, il va être question de culture amérindienne dans ces deux livres. Le premier s'appelle « Ni loup ni chien » et le second s'appelle « Le loup au crépuscule ».
Si vous voulez, on peut faire la chronique la plus courte du siècle.
Il faut le lire, c'est trop génial.
J'ai une citation.
Laquelle avez-vous choisi? Parce que j'ai pas réussi, moi.
La citation, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est surtout celui qui l'a prononcée.
Ah oui?
Le travail de Kent m'a accompagné et continuera de le faire, extraordinaire et à jamais précieux. Au milieu de la confusion des temps modernes, il donne voix à l'éblouissant esprit d'un peuple magnifique. Cette phrase est signée Robert Plant, le chanteur de Led Zeppelin.
Bon. On a dit ça, on a tout dit.
Bah oui, ouais. Enfin quand on connaît le monsieur, alors l'artiste oui, mais aussi son goût pour les musiques du monde, toutes les collaborations qu'il a fait en world music, je pense en pays Touareg, et en allant puiser aussi dans la culture amérindienne. Donc ça pose là. Bref, maintenant c'est à vous.
Oui, ça pose le livre. On va quand même parler très rapidement de l'histoire, bien que ce soit pas forcément l'histoire la plus importante dans ce.
C'est quoi?
Deux récits. C'est toute cette philosophie que va nous transmettre ce fameux Dan, un Amérindien de 80 ans. On suit Kent Nerburn, c'est un récit, donc c'est vraiment lui qui se met en scène, qui reçoit un jour un coup de téléphone d'une jeune femme qui nous dit que son grand-père, amérindien donc, a un projet de livre et qu'il voudrait que Kent Nerburn vienne l'aider à lire ses notes et à former un espèce de récit témoignage de la vie de ce vieil amérindien Dan. Donc Kent va partir donc dans le Dakota, faire la connaissance de ce vieil amérindien Dan. Il va lire les notes qui sont notées un peu n'importe comment sur des tickets, des carnets. Non, c'est pas possible. Je vais prendre mon micro, je vais t'interviewer et on va discuter parce que lire ces notes-là, c'est en faire quelque chose, ça va être compliqué. Dan dit non, garde ton micro, viens. Viens avec moi, on va se balader en voiture et tu prendras des notes au fur et à mesure et peut-être qu'il en tiendra quelque chose. Donc nous partons avec ce vieil amérindien Dan, Kent, Groover qui est un des vieilles amies de l'amérindien et la vieille chienne Fatback. Et nous partons sur les routes donc, du Dakota en direction de Wounded Knee qui est le lieu d'un des plus gros massacres d'amérindiens qui a eu lieu en 1890. Donc c'est le but de ce voyage. Ce qui est génial.
C'est avant-hier, hein, j'en ai repensé 1890.
Oui, évidemment, il n'y a pas longtemps. Donc ça c'est pour le tome 1. Pour le tome 2, on retrouve notre Kent qui reçoit un jour sur le pare-brise de sa voiture un petit mot qui dit « La chienne Fatback est morte, il faut que tu viennes ». Il habite loin, évidemment. Il va retourner voir ce vieux Dan qui lui dit « Bon, bah, ma chienne est morte, ils vont aller l'enterrer ». Et il va lui parler de sa sœur. Il a une sœur, ce vieil homme Dan, qui était parti dans les fameux pensionnats amérindiens. Ces pensionnats où on prenait tous les jeunes Indiens, l'idée c'était d'enlever l'Indien en eux pour...
leur indiennité.
Oui, tuer l'Indien pour sauver l'homme, c'était le slogan de ces pensionnats. Et qui étaient des lieux atroces où même certains enfants se suicidaient tellement c'était vraiment très difficile. Et sa sœur est partie dans ces pensionnats. Et donc le tome 2, l'idée c'était de retrouver 80 ans plus tard la trace de la sœur. Donc ça c'est pour les deux histoires à proprement parler. Mais ce qui est hyper important dans ces deux romans, c'est cette discussion entre un journaliste blanc et cet amérindien, Dan. Dan qui se dit donc ni loup ni chien. L'expression ni loup ni chien vient de Sitting Bull qui parlait de ces Indiens qui étaient embauchés par les agences gouvernementales pour faire l'intermédiaire entre les Indiens et le peuple blanc. Donc c'est des hommes qui étaient ni Indiens ni blancs. Donc lui se considère un peu comme ça parce qu'il a beaucoup vécu avec les blancs et il va avec plus ou moins de nuances, nous parler de la philosophie amérindienne. Donc il y a énormément de douleur, évidemment, dans ces textes, mais énormément d'humour. C'est hyper drôle, parce que, évidemment, il y a des situations absurdes. Il est très perspicace, ce garçon, ce vieil homme. Mais on se régale à aller lire ces deux textes.
Vous avez entendu comment je vous laisse parler?
Oui.
Mais non, je suis un petit peu conquis.
Un des exemples qui m'a le plus, qui m'a beaucoup frappé. Le journaliste arrive dans une réserve et il y a énormément de carcasses de voitures, des carcasses de congélateurs, des carcasses en tout genre. Enfin, c'est dégueulasse, vraiment. Et le journaliste Ken dit mais vous parlez de la terre, de votre terre mère, mais regardez ce que vous en faites. C'est dégueulasse. Et l'Indien lui répond. Eh bien, vous insurgez dès qu'il y a un paquet de chips qui traîne dans la forêt parce que c'est sale pour vous. Par contre, si on rase la forêt et qu'on y met un beau supermarché tout propre, ça vous pose plus de problème.
Et pan.
Pan, voilà. C'est des petites punchlines comme ça, tout du long.
Ferme ta bouche.
Donc là, c'est très, très drôle, évidemment, mais il va aller beaucoup plus loin. Il va aussi, surtout dans le deuxième tome, parler du racisme envers les Indiens comparé au racisme avec les Noirs. Il faudrait presque faire une chronique sur juste comment les Américains...
La chronique d'un passage.
Comment les Américains blancs... Il nous fait la différence entre la culpabilité et la responsabilité. Non, mais il faut que je vous le lise absolument. C'est vraiment...
Elle est bien, celle-là aussi. Hein.
Il dit « Assumer sa responsabilité, c'est pas la même chose. C'est reconnaître que le bien qu'on a obtenu vient du mal qu'on a fait et qu'on va faire quelque chose pour rattraper ce mal. » Bon, et il le dit dans le contexte de « C'est impossible pour un Américain blanc d'aller réparer le mal qui a été fait aux Indiens. » Ça voudrait dire juste partir des États-Unis.
Oui. Wow. Ah oui, comme indemnité, là.
C'est impossible. Par contre, se sentir responsable et assumer cette responsabilité, c'est encore autre chose. Voilà, ça m'a fait bien beaucoup rire. C'est comme ça tout du long. Alors Kent, évidemment, est très mal à l'aise devant ces deux périples-là. Et évidemment, il s'en prend beaucoup pour le peuple blanc, mais il ne pose pas de questions. Il laisse les choses venir en naturaliste et en fonction des situations, on va se retrouver avec des discussions et ce genre de petits débats sur qu'est-ce qu'être un Amérindien aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'être il y a 100 ans, toutes les traditions et évidemment la spiritualité et le sacré.
Diptyque, ni loup ni chien, la suite, le loup au crépuscule, c'est Kent Nerber. Sans transition, c'est ce soir, dans les murs de la librairie Caractère, un invité, un député.
Monsieur Boris Vallot viendra...
Troisième circo.
Oui, à la librairie, vendredi soir à partir de 19h, nous parler de son témoignage, de son livre, en permanence.
C'est la permanence de Saint-Sevé.
C'est ça. Et il va nous parler de tous ces gens qui l'ont bouleversé. Rencontre animée par Madame Arlette Tapiot d'Angla. Boris de la Ligue de l'enseignement des langues.
C'est pas un homonyme, hein, c'est le vrai.
C'est le vrai, ouais. Voilà.
C'est celui qui a failli être Premier ministre. Mais bon, c'est la droite qui a gagné les élections.
Ouais. Vous avez une petite étincelle dans les yeux.
Non, du tout. Ça. Non, mais vous recevez souvent des politiques, j'ai remarqué ici.
Pas plus que...
Si, il y a eu Alain Vidalis, qui à la fin de son mandat était venu. Ouais. Il y a eu Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre. Ah, et là, il y a Boris Vallot.
Eh oui.
C'est pas CNews, caractère. Enfin, c'est pas CNews ici. Hein. C'est pas...
Du tout. Non. On met du sens dans ce qu'on dit.
The end. Alors là, je peux remonter sur mon cheval et partir au lointain comme dans un film de John Ford.
Dans le Dakota du Sud.
Merci Aurore Pourny.
Avec plaisir.
MDM, tout un monde.